Dans l'Ancien Testament, il y avait pour le croyant un moyen d'obtenir le pardon par le moyen des sacrifices. L'Ancien Testament nous explique que le pécheur allait au temple, il apportait son agneau, il lui imposait les mains pour montrer par là que le péché, sa faute, était transféré sur l'animal. Il égorgeait l'animal et le sacrificateur accomplissait les rites liés au sacrifice. Ce qui est curieux, c'est de lire dans le livre du Lévitique, au travers de plusieurs chapitres, vous le retrouverez au chapitre 4, vous le retrouverez au chapitre 5, que les sacrifices qui sont prévus dans l'Ancien Testament sont prévus pour les péchés non volontaires. Et cette expression ressort à plusieurs reprises. Celui qui aura péché involontairement, celui qui aura péché sans le savoir, pourra faire ceci et cela. Et quand on lit plusieurs chapitres où cette expression revient, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question, mais enfin, celui qui pêche volontairement alors, il n'y a pas de pardon ? Il n'y a pas de sacrifice pour celui-là ? La question se pose et on se rend compte au travers de l'ensemble des Écritures cette fois-ci, qu'effectivement, dans un sens, celui qui a accepté Jésus comme son sauveur personnel ne va pas vraiment pécher volontairement. Vous vous souvenez que dans le Nouveau Testament, il nous est dit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nous avons bonne conscience envers Dieu et nous nous engageons d'avoir bonne conscience parce que nous reconnaissons que nous choisissons de ne pas pécher volontairement. Autrement dit, le croyant, c'est celui qui va tomber dans le péché accidentellement. Parce qu'il a choisi, dans le baptême, de se consacrer entièrement à Dieu et de faire tout ce qui est de sa part nécessaire pour que Dieu le garde du mal et du péché. Mais il est vrai que, dans la parole de Dieu, il nous est montré à plusieurs reprises que Dieu, dans sa bonté, pardonne aussi le péché volontaire. On a l'exemple du fils prodigue qui s'enfuit, qui insulte son père et qui part, mais qui revient. Et pendant tout le temps où il est parti, son père est là et il attend. Il attend le retour de son fils. Dans l'Ancien Testament, les rituels de sacrifice sont devenus finalement une habitude tellement souvent répétée que ces sacrifices avaient perdu le sens que Dieu avait placé dans ces rituels pour qu'ils frappent l'esprit des gens. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, si nous devions faire une chose semblable chaque fois que nous péchons, sans aucun doute, on réfléchirait peut-être à deux fois. Dieu voulait faire comprendre aux croyants de ce temps-là une leçon d'une extrême importance, une leçon d'une très grande importance, une leçon qu'il a essayé de faire rentrer dans l'esprit des hommes et des femmes dès le début, dès la Genèse. Une leçon extrêmement importante et nécessaire d'apprendre. Une leçon cruciale. Un enseignement des Écritures que l'on trouve de la première page à la dernière. Dieu voulait faire comprendre que le salaire du péché, c'est la mort. Même si, déjà dans le jardin d'Éden, Ève n'a pas été foudroyée à l'instant où elle a touché la pomme. Mais l'instant où elle avait touché la pomme, Ève avait coupé sa relation avec Dieu, déjà. Dès la première page jusqu'à la dernière, Dieu essaie de faire comprendre le péché ne touche pas, c'est mortel. C'est mortel. Entends-tu, c'est mortel. Et dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu présente cette vérité à Ève, à Adam et Ève, il le dit d'une façon très curieuse qui sonne bizarrement en français. Il le dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras de mort. une expression qui n'a pas beaucoup de sens dans notre langage à nous, mais qui traduit l'insistance que Dieu met dans cet enseignement pour nous faire comprendre. Non, non, ce ne sera pas le sommeil de la mort, ce ne sera pas une petite maladie, ce ne sera pas... Non, tu mourras de mort, point, fini. Le salaire du péché, c'est la mort. Et dans les Écritures, Dieu s'y est pris parfois de la manière forte pour enseigner cette vérité à ses enfants. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 11, une histoire nous est racontée que j'aimerais revoir avec vous ce matin. Vous la connaissez. C'est un moment où le roi David, bien confortablement installé sur son trône, décide qu'il faut aller faire la guerre à ces gens là-bas. Par conséquent, il va y envoyer son général Joab et lui va rester à la maison. Il envoie ses armées, il envoie ses gens de confiance. Il n'a pas besoin d'y aller. T'es assez grand pour faire ça sans moi. Première erreur. Depuis quand un roi, depuis quand un chef comme ça se permet d'envoyer ses soldats guerroyer et lui rester confortablement à la maison, ne donner ses ordres que par téléphone ou par internet? Mais David reste à la maison. Pendant que ses soldats sont à la guerre là-bas, ils ont qu'à liquider ce problème rapidement. Et pendant qu'il est à la maison, David s'occupe de ses affaires, de ses conforts. Et un soir, il se promène sur la terrasse de son palais. Et de là, il a une vue plongeante sur la salle de bain de Bathsheba. Oh, c'est fort simple, il est roi. Il envoie ses serviteurs, « Invitez donc cette dame à me rendre visite. » Et David va s'occuper de cette personne dont le mari est à la guerre, justement. Bathsheba va envoyer un message au roi en lui disant trois mots en français. Je suis enceinte. Bon, c'est un problème, mais puisqu'il est roi David, on va résoudre les problèmes. Son mari, c'est Uri, un des vaillants soldats du roi. Alors il va envoyer un message demandant à Uri de venir apporter un rapport de ce qui se passe au front. Le roi veut s'informer. Uri revient, donne son rapport, et pour récompenser ce soldat valeureux, le roi lui dit, ben, reste un jour ou deux chez toi. Et le soldat dit, mais enfin, mes compagnons sont à la guerre, il y a danger là-bas, et puis tu me proposes d'avoir du bon temps, pas question. Et cet homme ne va pas chez lui. Ça, c'est ennuyeux, parce que la stratégie du roi ici commence à souffrir. Une lettre du roi qui, dans cette lettre, demande au général Joab de veiller à ce que le porteur de cette lettre ne revienne pas de la guerre. Cet homme va porter, sans le savoir, son arrêt de mort dans ses propres mains. Il va remettre ce message fidèlement au général. Et le général va exécuter les ordres du patron, le roi. Uri sera mis dans une situation difficile. Et lorsque il sera là, seul, on va se retirer et le laisser la proie de l'ennemi. Il est mort pour la patrie, s'il vous plaît. Enterrement première classe, avec les honneurs. La fanfare, les drapeaux, mort pour la patrie. Bathsheba va vivre le deuil selon les prescriptions qui sont dans les Écritures. Et à la fin de cette période de deuil, le roi, dans sa générosité, dans sa bonté, dans sa grandeur d'âme, va recueillir la pauvre veuve, esseler, et la joindre à ses nombreuses femmes. Et, pense David, le tour est joué. Le problème, c'est que les gens du peuple savent compter jusqu'à 9. Et ils vont trouver que cet enfant qui va naître est vraiment prématuré. Les gens ne sont pas stupides, ils savent, ils comprennent. Et avant que David comprenne que les autres ont compris, Dieu envoie auprès de lui son serviteur Nathan. Nathan, le prophète, vient auprès du roi et lui dit, écoute, majesté, j'ai besoin de tes conseils inspirés. J'ai entre les mains une affaire délicate pour laquelle je voudrais que tu me guides. Voilà l'affaire. Dans une des villes du royaume, il y a un riche qui a des troupeaux à n'en plus finir. Grande richesse. Dans cette même ville, il y a un pauvre. Ce pauvre, il a une petite biquette qui garde chez lui, qui l'élève avec ses enfants. Le seul animal qu'il a. Très pauvre, cet homme. Et voilà que le riche reçoit de la compagnie. Et au lieu d'aller prendre dans ses troupeaux pour préparer les repas, il envoie ses serviteurs prendre la petite chèvre de ce pauvre, la fait égorger, la fait préparer pour servir à ses invités. Et Nathan lui dit, je suis embarrassé avec cette situation, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et David, sur son trône, est pris de colère. Cet homme doit mourir. Il doit d'abord rendre 4 fois ce qu'il a pris. C'est intolérable. Cet homme doit mourir. Et là, je pense que Nathan a dû prendre son courage à 2 mains pour lui dire cette petite phrase fatale. Cet homme, c'est toi. Parce qu'après cette phrase, David pouvait dire, Nathan disparaît. Et Nathan était fini. L'histoire est un peu différente, heureusement. L'histoire nous dit que David a été frappé par le jugement qu'il a lui-même prononcé sur son propre cas. Et qu'il a dit, j'ai péché. Il les avait d'ailleurs accumulés les uns sur les autres. Il n'avait pas qu'un, mais un autre pour couvrir le premier, puis un autre pour couvrir le deuxième. J'ai péché. Quand on lit cette histoire, on se dit, mais enfin, où est le petit berger qui gardait ses moutons? Où est le David qui allait jouer de la musique pour apaiser le roi? Où est le David, plein de foi, encore adolescent, qui part avec sa fronde et une pierre et qui est capable d'aller tuer un géant alors que toute l'armée du roi de cette époque-là tremble de peur? Où il est le petit berger innocent de Bethléem? Qu'est-il devenu? Où est-il cet homme de foi qui refuse de mettre la main sur loin de l'Éternel qui était Saül et que Dieu protège tout au long de sa fuite devant le roi de l'époque? Où est-il le petit berger de Bethléem? Qu'est-il devenu avec le temps? J'ai lu ce commentaire intéressant. Le fait que Dieu ait développé avec David une étroite intimité et qu'il lui ait manifesté tant de faveurs aurait dû être l'expérience la plus forte pour que David préserve son caractère pur. Mais lorsque les aises et le sentiment de sécurité l'ont fait abandonner son attachement à Dieu, David succomba à Satan. Ah, voilà la réponse en fait. C'est cela. Les aises et le sentiment de sécurité. C'est ce qui l'a fait s'éloigner de son attachement à Dieu. Maintenant, lorsqu'une faute pareille est commise, on s'attend à ce qu'il y ait des conséquences. Et vous connaissez cette formule, la justice c'est comme une toile d'araignée, elle attrape les petits, elle laisse passer les gros. Et lorsqu'un gros commet une faute, curieusement, d'une manière ou d'une autre, il s'en sort. Mais le petit va prendre toute la charge de la punition. Alors on attend. On attend de voir ce qui va arriver avec David, le roi. En réalité, cette situation va produire un premier bienfait, c'est le psaume 51 dont nous avons lu un extrait tout à l'heure. frappé par le message de Nathan, frappé par l'appel de Dieu, David va exprimer dans des paroles fantastiques ce qu'est la repentance dans le psaume 51. L'ensemble de ce psaume est un cantique de repentance que David écrit suite à cette situation-là. C'est l'un des plus beaux psaumes où cette notion de repentance nous est expliquée en plusieurs étapes. Ce psaume est le modèle de la repentance. Mais dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 12, nous apprenons quelle va être la sentence de Dieu. David va se repentir, David va exprimer son regret, mais Dieu parle encore. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 12, au verset 13, il est dit ceci. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Dieu pardonne ton péché, dit-il. Tu ne mourras pas, mais ton fils va mourir. Et là, David va faire tout ce que n'importe quel père aurait fait. Il va s'humilier, il va jeûner, il va prier pour que peut-être Dieu ait pitié de cet enfant. Vous savez, quand on est père ou quand on est mère, pour nos enfants, on est capable de tout faire. Et ce n'est pas d'ailleurs seulement chez les êtres humains. Approchez-vous des animaux, approchez-vous d'une maman qui a des petits. Vous ne serez pas nécessairement toujours en sécurité. Un père, une mère fait tout pour ses enfants. Et David plaide, David prie que Dieu étende sa miséricorde et sa bonté et sa grâce. Et l'enfant meurt. David a compris qu'il ne sert à rien de plaider, de prier. Dieu a dit, Dieu a parlé. Ainsi en sera-t-il. Et David arrête de s'endeuiller. Cette situation est d'ailleurs mal comprise par son entourage. Et peut-être par nous aussi, parce qu'en fait, si d'un côté nous sommes révoltés par l'attitude de David dans cette situation-là, où il multiplie faute sur faute pour cacher les fautes et pour se cacher devant les autres, on est aussi révolté par l'attitude de Dieu qui ne va pas faire tomber sur David la condamnation de la faute, mais sur cet enfant qui va naître. Où est-il le Dieu miséricordieux? Où est-il le Dieu bon, riche en bonté, qui pardonne? Où est-il? Est-ce que c'est là le Dieu de la Bible qui va faire tomber sur cet enfant la faute du père pour pouvoir arranger les affaires de son ami David? Est-ce là le Dieu des Écritures? Pourtant, les Écritures sont claires. Lisons quelques passages. Il y en est un, par exemple, dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 18, Ézéchiel chapitre 18, nous présente cette question, Dieu parle par son prophète et il est clair. Ézéchiel chapitre 18, nous lirons à partir du verset 19. Ézéchiel chapitre 18, verset 19. Vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, la méchanceté du méchant sera sur lui. C'est clair. L'âme qui pêche, celle qui mourra. Un autre passage dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, joint ici plusieurs notions intéressantes. Exode, chapitre 34, Nous lirons à partir du verset 6. Il y a là une formule doxologique très ancienne, et là, elle se trouve, cette formule, dans sa formule complète. Nous la retrouvons à bien d'autres endroits dans les Écritures abrégées. Ici, il est dit au verset 6, « L'Éternel passa devant lui et s'écria. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » Oh, mais quel est ce Dieu-là qui punit l'iniquité des pères sur la troisième et quatrième génération? Et on lève les bras en scandale au ciel en ne lisant que cette partie du texte, alors que le début nous dit qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Faites le compte de ce que représentent 1000 générations et vous verrez que l'histoire de l'humanité est encore trop courte pour épuiser la grâce de Dieu. Mais enfin, combien de fois, et nous devons le reconnaître, combien de fois nos fautes ont des conséquences et des répercussions sur la génération suivante. Nous le remarquons à bien des reprises. Il porte aussi nos gènes faibles et affaiblis par la manière de vivre que nous avons parfois même aujourd'hui, par les erreurs que nous avons commises. Mais il est là question d'un Dieu qui pardonne l'iniquité et qui étend sa grâce sur 1000 générations. Cependant, on est étonné de voir dans une situation si précise une punition tombée sur le fils, alors que c'est le père qui a péché. On réfléchit à l'histoire biblique que l'on connaît, on pense à Moïse, et Moïse... Enfin, Moïse, à la fin de sa vie, n'a pas commis les fautes que David avait commises. Il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Et il en est mort. Pas ses enfants, lui. Uzza. Uzza qui avait même la bonne intention de retenir l'arche pour ne pas qu'elle tombe. Oh, il n'a pas commis un meurtre, un vol, un viol, rien de tout ça, s'il vous plaît. Il a touché l'arche et il est mort, là, direct. Pas ses enfants, lui. Pensez même dans le Nouveau Testament, Ananias et Saphira n'ont pas volé, n'ont pas tué, n'ont pas blasphémé. Ils ont juste dit une partie de la vérité. Juste une partie de la vérité. Et là, ils sont morts. Tous les deux, au pied de l'apôtre Pierre. Pas leurs enfants, pas les autres, eux, pour avoir dit un petit mensonge. Et le fils de David doit mourir à cause de toutes les fautes de son père. Difficile à comprendre. Et pourtant, cette histoire dans les Écritures a, je crois, pour nous un sens extrêmement profond. Vous pourriez relire cette histoire à votre aise à la maison, ces deux chapitres qui racontent cet événement dans l'histoire de David, dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 11 et 12, et vous découvrirez que cet enfant qui va mourir n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. On se réfère à lui comme l'enfant, mais la plupart du temps, on va se référer à lui comme le fils de David. Mais lorsque nous disons le fils de David, une autre idée vient tout d'un coup à notre esprit. 1000 ans plus tard, Jésus, monté sur un âne, la monture royale de cette époque, rentre à Jérusalem. Et la foule va crier, « Hosanna, au fils de David !» Cet enfant dont il est question dans cette histoire n'a pas de nom. On l'appellera le fils de David. Et là, peut-être, maintenant, l'histoire prend un sens tout à fait différent. On comprend maintenant pourquoi Dieu dit à David, tu ne mourras pas, mais l'enfant mourra. En fait, Dieu est en train d'enseigner ici à David la même leçon qu'il était en train d'enseigner à Abraham par le sacrifice qu'il lui a demandé de faire. Oh, je sais, Abraham n'a pas sacrifié son fils. Dieu a pourvu en apportant l'agneau. Il semble que Dieu a utilisé une manière encore plus forte avec David qu'avec Abraham. Parce que le fils de David est mort à sa place. Et je crois que David a compris tout le poids que Dieu mettait dans la leçon qu'il essayait de lui enseigner. Dans le psaume 51, David exprime non seulement sa repentance, mais il exprime de grandes vérités que nous connaissons. Dans le psaume 51, j'aimerais lire avec vous à partir du verset 16 ce que David exprime ici. Psaume 51, le verset 16 et suivant. « Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » David a bien compris que ce n'est pas en faisant des sacrifices, en les multipliant parce qu'il est riche, qu'il sera davantage pardonné. David a compris que ce n'est pas le sacrifice sur l'autel, là à Jérusalem, de cet agneau ou de ce bouc qui va le pardonner, mais c'est la foi dans ce que ce sacrifice représente, qui lui garantit le pardon que Dieu veut lui offrir. Et lui dit, si tu avais voulu des sacrifices, j'ai des troupeaux pleins de pays, je peux t'en faire des sacrifices, plus que tu n'en voudrais. Mais David reconnaît que ce ne sont pas là les sacrifices que Dieu attend de sa part. Et il lui dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu voulait faire comprendre à ses serviteurs et aux croyants, par tous les moyens possibles, même les plus forts s'il le fallait, que le péché est mortel. Touche pas. Et à cause de cet enseignement-là, Dieu va employer tous les moyens possibles pour faire comprendre que le salaire du péché, c'est la mort. Et dans sa grâce, Dieu va faire comprendre à David et aux croyants de ce temps-là que si lui n'a pas besoin de mourir, c'est parce que le fils de David devra mourir à sa place. Le fils de David viendra 1000 ans plus tard. C'est lui qui ira sur la croix en disant « La vie que j'ai, personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Cette histoire, dans cette page triste dans la vie de David, est en fait une grande leçon du plan du salut. Le fils de David, il est mort pour David, il est mort pour tous ceux de ce temps-là, mais il est mort aussi pour vous et pour moi. Et cette table de Sainte-Seine que nous avons devant nous aujourd'hui représente encore aujourd'hui ce sacrifice que Jésus a fait, le fils de David, pour que, comme David, nous n'ayons pas besoin de mourir, mais que par lui nous puissions avoir la vie éternelle. Dans cette histoire, j'entends trois choses que Dieu me dit aujourd'hui. Et j'aimerais, en terminant, les partager avec vous. La première, c'est celle que nous venons de voir. Comme David, je n'ai pas besoin de mourir. le fils de David est mort à ma place. La deuxième, c'est que malgré la repentance, malgré la confession, malgré la conversion, le péché a des conséquences, et les conséquences restent. Écoutez ceci. La transgression de David avait changé sa relation avec Dieu. Le Seigneur ne pouvait en aucune manière approuver son péché. Il ne pouvait pas exercer son pouvoir pour protéger David des résultats de son péché, comme il l'avait autrefois protégé de la haine de Saül. Notre péché modifie, change notre relation avec Dieu. La troisième chose que j'entends dans cette histoire ancienne, c'est quelque chose dont nous parle l'apôtre Paul. Parce que je repense à David, je repense au berger de Bethléem, je repense au courageux adolescent qui part avec une pierre et qui va frapper Goliath devant une armée entière. Je pense à cet homme qui reste droit et fidèle dans les difficultés. Et je me dis, mais enfin, qui aurait pu penser que David soit capable de faire une chose pareille? Qui aurait pu penser? Et l'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, nous rappelle cet enseignement avec force, parce qu'il est vrai encore aujourd'hui. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, il nous est dit ceci dès le verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ce que j'entends le Seigneur me dire pour terminer dans cette histoire triste de David, c'est que nous n'avons pas simplement besoin de la grâce de Dieu lorsque nous sommes tombés. Nous avons besoin de sa grâce lorsque nous ne sommes pas tombés, pour ne pas tomber. Nous avons besoin de sa grâce constamment, toujours, tout le temps. Nous avons besoin de la recevoir, nous avons besoin de le recevoir pour vivre dans les temps qui sont décrits dans les Écritures comme la fin des temps, comme des disciples qui attendent le retour du Fils de David. Amen. Amen.